à quelque chose, malheur est bon. Maman répétait toujours ça, à quelque chose, malheur est bon. Le malheur aujourd'hui, c'est nos otages en Irak, les deux confrères et le chauffeur, qui en fait est un fixeur, c'est-à-dire celui qui connaît le terrain, qui conduit, qui traduit, qui est très précieux et dont on ne parle jamais beaucoup. Ça c'est le malheur. Alors à quoi ce malheur est-il bon? Eh bien c'est cet effet d'unanimité dans la réprobation, unanimité nationale dans la réprobation, et notamment réprobation partagée par les organisations musulmanes, tout courant confondu, y compris le courant opposé à la loi interdisant les signes religieux à l'école, loi qui entre en application aujourd'hui, ce qui fait que un instant la controverse est sur le voile, est suspendue, et même nos terroristes islamistes apparaissent sous un jour tout à fait différent. Les islamophobes sont un peu désorientés, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, ça ne durera pas, mais c'est une occasion pour tenter une fois encore de parler de l'islam. L'islam en France, l'islam et la République, l'islam et la laïcité, l'islam et les femmes. La femme, c'est Khadija Marfouk, qui est universitaire, ingénieure, chef de projet, militante associative, qui se préoccupe d'islam et de laïcité, de l'islam et de femmes, et de même d'islam et de féminisme. Et puis, Alain Grèche, qui est journaliste au Monde diplomatique et qui sort ces jours-ci un livre chez Fayard, Islam, la République et le Monde. Voilà, c'est jusqu'à 18h. Nous, on est là dans la Creuse, on arrive sur le plateau de Mille Vaches, mais je ne vous dis pas pourquoi, nous gardons le secret.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si j'y suis avec Khadija Marfouk et Alain Grèche autour du livre d'Alain Grèche, L'Islam, la République et le Monde.
Flight number 2, arriving from New York.
L'islam est-il compatible avec la démocratie? Le foulard est-il une arme contre la laïcité? Les musulmans peuvent-ils s'intégrer dans la société européenne? Voilà des questions qui reviennent sans cesse depuis pas mal d'années et qui renvoient à des peurs très anciennes et à des fantasmes qui semblent insurmontables. Alors aujourd'hui entre en application la loi contre les signes religieux à l'école. On sait dans quel contexte nous parlons, ces drames terribles en Irak. Et Alain Grèche, vous vous attaquez à toutes ces questions. C'est les questions que vous vous posez vous-même, ça.
Oui, hein, tout à fait.
C'est les questions que vous vous posez vous-même. Et vous avez entrepris, avec un courage quand même assez héroïque, d'y répondre. Héroïque parce que vous vous attaquez à quand même à une montagne de fantasmes et de d'éléments passionnels qui résonnent quand même dans une archéologie mentale dans laquelle il est bien difficile de s'y retrouver.
Je crois qu'il y a d'abord une ignorance. Je veux dire, c'est l'islam est quand même pour nous une religion qui est relativement étrangère, même si elle devient la deuxième religion de France, une histoire du monde musulman dans sa diversité que nous ne connaissons pas, et donc comme tout ce qui est étranger, il y a une tendance à avoir peur. Donc il est nécessaire de lever cette ignorance pour faciliter un dialogue. Mais au-delà de cette ignorance, je crois qu'il y a aussi une peur qui date des années 90, qui est en train de s'étendre à la fois au niveau international et au niveau français. Je le dis dans le livre, on a l'impression que l'islam est en train de remplacer le communisme comme ennemi principal.
Alors, on a avec nous Khadija Marfouk. Khadija Marfouk, bonjour.
Bonjour.
J'avais une note sur vous, on m'avait parlé de vous, et j'avais noté Khadija Marfouk, universitaire et voilée. J'avais quatre mots. Khadija Marfouk, universitaire et voilée. Est-ce que vous...
Bah, encore ça va, c'est bien, puisque en fait, au moins, vous commencez par Khadija Marfouk et vous dites voilée après. Bah, parfois, dans les journaux, on n'a que voilée, une fille voilée. C'est toujours l'inconnu, la fille voilée, le voile définit tout.
Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes ingénieur?
Je suis de formation ingénieur et je travaille en fait dans le conseil comme chef de projet.
D'accord. Et vous êtes une militante associative ?
Je suis une militante associative. Donc, je milite avec Amnesty International. Et puis aussi, je suis membre de la commission Islam Laïcité et du collectif féministe pour l'égalité.
Voilà. Comme ça, ça va nous permettre, avec Alain Grèche, de ne pas parler seulement comme ça en intellectuel ou en chercheur ou en journaliste. Je rappelle évidemment qu'Alain Grèche est journaliste au Monde diplomatique. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure de cet entretien, intervenir quand vous voulez, apporter votre expérience, parce que tout ce que raconte Alain Grèche dans son bouquin, vous le vivez.
Oui, exactement.
C'est quand même une différence. L'islam, la République et le monde. Quoique, Alain Grèche, vous commencez par donner un peu les raisons de ce bouquin. Vous vous référez à votre enfance. Vous êtes né en Égypte. Vous êtes né au Caire. Vous êtes d'une famille à la fois chrétienne, juive, et puis vous avez
grandi. Surtout communiste.
Communiste. Et vous avez grandi quand même dans ce milieu-là. Ce qui explique votre intérêt pour ce monde, pour le Proche-Orient, pour le Moyen-Orient et pour le monde musulman. Ouais.
D'abord, pour préciser quelque chose, je suis athée, je le dis, depuis l'âge de 13 ans, j'essaie de croire sans grande crise religieuse et ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai grandi en Égypte jusqu'à l'âge de 14 ans et ça m'a donné une sensibilité à la fois aux questions du Proche-Orient, évidemment, mais aussi à la perception que le Sud pouvait avoir de la politique internationale. Je rappelle, moi j'ai des souvenirs de 1956, de l'intervention franco-britannique contre l'Égypte, du bombardement de l'Égypte, et à quel point j'avais ressenti ça comme une agression, moi qui étais complètement de culture française, admiratif de la France, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi des avions français bombardaient l'Égypte. Et puis, bon, en arrivant en France quelques années plus tard, j'ai découvert que c'était une action qui avait été à l'époque soutenue par la grande majorité des forces politiques de la droite au Parti Socialiste. Donc ça, c'est une sensibilité qui me permet peut-être de percevoir un certain nombre de problèmes d'une autre manière. Et puis, peut-être aussi, je n'ai pas grandi en France, c'est-à-dire ma conception de la laïcité, je suis totalement laïque, est peut-être différente. Je n'ai pas cette espèce de peur que je sens parfois chez un certain nombre d'amis ou de camarades sur la laïcité est en danger, nous sommes menacés, etc. À la fois je suis laïque, mais en même temps je connais le poids, peut-être du fait de mon expérience égyptienne, de ce que sont les religions. C'est-à-dire le fait qu'il fut un temps où, dans notre jeunesse, on croyait qu'au fur et à mesure que la lumière du rationalisme s'étendrait sur le monde, les religions reculeraient. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ce n'est pas vrai. Les religions restent un facteur important. Et un facteur, ce que j'ai découvert aussi, c'est un facteur qui n'est pas déterminant dans les engagements politiques, forcément. Et je raconte qu'en arrivant en France, j'ai côtoyé des gens qui étaient les porteurs de valises, mm-hmm. c'est-à-dire ceux qui s'étaient engagés aux côtés du combat du FLN algérien. Beaucoup étaient catholiques, mm-hmm. beaucoup étaient des curés, beaucoup étaient protestants. Mm-hmm. Et ils faisaient ça au nom de leur foi. Et donc, j'ai toujours pris en compte cet aspect que des gens, au nom de leur foi, peuvent faire des choses tout à fait remarquables qui convergent avec ce que moi je peux penser.
On a les théologiens de la libération, hein, vous en parlez. Si on voit la sphère chrétienne, ça va de l'Opus Dei aux théologiens de la libération.
Oui. Ça, c'est une des choses qu'on ne comprend pas en France. Quand on voit l'islam, on a l'impression d'un islam global et figé. Alors non seulement l'islam c'est une histoire de 14 siècles, c'est-à-dire avec une énorme diversité de systèmes politiques, de systèmes sociaux, etc. C'est aujourd'hui plus de 50 pays et il suffit d'être allé, je sais pas, au Mali, en Indonésie, en Arabie Saoudite pour se rendre compte que les gens ne vivent pas de la même manière. C'est-à-dire l'impression, si vous voulez, que le fait d'être musulman détermine tout le reste est une impression complètement fausse. C'est pas parce que vous êtes chrétien, si vous voulez, si vous êtes chrétien en France et chrétien au Brésil, en fait, vous serez essentiellement déterminé par la situation brésilienne ou la situation française, beaucoup plus que par votre conviction chrétienne. Mais on a l'impression que les musulmans, ce qui les définit, c'est d'être musulmans. Or, en fait, ils vivent de manière très différente et, comme dans le christianisme, il y a différents courants politiques ou différentes manières de faire de la politique. On le voit aujourd'hui en Turquie avec un parti qui est au pouvoir, qui est un parti islamiste, mais qui en même temps ressemble plus à ce qu'était la démocratie chrétienne des années 50 qu'à au fantasme qu'on peut avoir. Et puis vous avez aussi Ben Laden qui se réclame de l'islam. Et puis vous avez l'université d'Al-Azhar. Donc cette diversité n'est jamais prise en compte. Il suffit que on a l'impression, pour un certain nombre de gens, qu'il suffit d'être musulman pour que tout de suite il y ait une espèce de suspicion.
Radija Marfouk, il pourrait y avoir un islamisme gauchiste.
Moi, je pense que le fait, comme Alain vient de l'expliquer, d'avoir une religion, ça détermine pas en fait ses positions politiques, ni ses engagements intellectuels ou militants. Le fait que, en fait, c'est l'histoire de chacun, c'est les conditions dans lesquelles il vit socialement et économiquement parlant qui permettent à la personne après de prendre telle ou telle voie et tel engagement. Je connais des musulmans qui sont des musulmans, on les entend, ils ressemblent tout à fait à un communiste, par exemple, quand ils parlent. D'autres qui ont choisi des engagements avec la droite, d'autres qui ont choisi tout simplement de militer avec des organisations altermondialistes. Donc, je pense que ça dépend des vécus de chacun et ça dépend aussi de l'histoire de chacun. Ce que je récuse, moi, c'est le fait de définir toujours ces gens-là par juste leur religion. La religion en fait partie. C'est un des facteurs qui construit, je dirais, certains choix. Mais il ne faut pas résumer tous ces choix à la seule appartenance religieuse.
Alors, Alain Grège, dans votre bouquin, là, je rappelle le titre, l'Islam, la République et le Monde, vous parlez évidemment de la laïcité, on va y revenir, mais quand même, notre effort et notre histoire occidentale, française notamment, a été de séparer le politique et le religieux.
Absolument, oui.
Où en est l'islam par rapport à cette séparation ?
On ne peut pas répondre de manière générale. Où en est l'islam ? Je veux dire, encore une fois, l'islam, c'est 50 pays avec... des systèmes politiques très différents. Des fois, il y a eu des républiques socialistes, des fois des monarchies, des fois... Bon, donc, on peut poser la question en France. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, comment faire pour intégrer les musulmans et l'islam à la société de la même manière que les autres religions, sur un pied d'égalité avec les autres religions. Et je crois que c'est ça sur lequel il faut réfléchir. En ayant quand même conscience, et je rappelle dans le... J'ai dit que, bon... Je n'étais pas au départ familiarisé avec l'histoire de la laïcité, mais je me suis plongé dans cette histoire. Je consacre un chapitre à cette histoire, y compris comment la loi a été votée. Et en fait, on se rend compte que la République, à la fois, a voulu très clairement séparer la religion de l'État, mais elle n'a jamais été en guerre pour casser la religion. C'est-à-dire, face à la religion catholique qui, en 1905, je le rappelle, était une force politique déterminante, ça n'a rien à voir avec ce qu'est l'islam aujourd'hui, qui était une menace pour la République, parce que globalement, l'Église catholique à l'époque était royaliste. Donc, face à ça, on a adopté la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais on a accepté, finalement, beaucoup de compromis. Et notamment le fait que l'Église a refusé la loi de 1905, pratiquement, et la laïcité, pratiquement, jusque dans les années 40 et 50, ça n'a pas été un problème pour la République. C'est, on n'a pas demandé, aujourd'hui on demande aux autorités musulmanes de dire qu'elles sont pour la laïcité. Elles déclarent qu'elles sont pour la laïcité. Mais à l'époque, en 1905, on n'a pas du tout demandé à l'Église catholique d'être pour la laïcité, on leur a demandé d'appliquer la loi, ce qui est tout à fait autre chose. Et l'Église catholique a combattu politiquement la laïcité jusque dans les années 30. Donc, il faut appliquer la laïcité, il faut l'étendre sur une pied d'égalité à l'islam comme aux autres religions, et en même temps, il faut le faire de manière souple, qui permet d'intégrer les populations et pas de donner l'impression que finalement, aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux musulmans. D'ailleurs, on le voit bien, on a adopté une loi sur l'interdiction des signes religieux, mais il suffit d'entendre les médias pour dire que c'est une loi contre le voile, et c'est perçu comme ça. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que de ne pas focaliser aujourd'hui tout sur l'islam et sur les dangers qu'il représenterait.
Ce qui s'est installé ces dernières années, dernières décennies, c'est l'idée d'une guerre des civilisations. On serait en train de vivre là, on l'ignorerait d'ailleurs un petit peu, on serait menacé par une guerre des civilisations. Il y a un choc des civilisations, puis maintenant c'est la guerre des civilisations. Et pour certains, ça y est, on est dedans là. Hein.
Ce qui est dangereux dans cette conception, c'est que je dirais qu'elle est la conception à la fois de Ben Laden et la conception des néoconservateurs américains. C'est-à-dire que, en miroir, d'un côté, on a Ben Laden qui dit « Engageons-nous dans la lutte contre les croisés et les juifs », et de l'autre, on a des gens qui disent « Le danger principal, c'est l'islam, nous devons nous battre contre eux, etc. » Et ça s'alimente d'une certaine manière. Si vous voulez, du point de vue, par exemple, des populations musulmanes, de voir... un certain nombre d'interventions américaines dirigées essentiellement contre les pays musulmans fait apparaître l'Occident globalement comme un ennemi. Et de l'autre côté, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde musulman, on peut aussi avoir l'impression, si vous voulez, Là, on a eu en quelques jours la prise d'otage dramatique en Irak, l'attentat à Beersheba, l'attentat à Moscou et une prise d'otage en Ossétie du Nord. Point commun de tout ça, dans tous, c'est des pays musulmans. Si vous le prenez dans ce cadre, si vous l'analysez dans ce cadre, à ce moment, c'est terrifiant. Effectivement, nous sommes face à une offensive de l'islam contre l'Occident. Mais en fait, si vous prenez chacune de ces actions, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire que en Ossétie et à Moscou, c'est essentiellement la question tchétchène qui est posée, qui est une question de répression d'un pouvoir d'État contre une nationalité qui se bat pour ce droit. En Palestine, vous avez un problème israélo-palestinien qui n'a rien à voir avec l'islam, qui existait avant la naissance de l'islam politique. Et en Irak, vous avez un problème qui est lié au fait que l'intervention américaine a créé un chaos immense, une résistance réelle à cette intervention, et en même temps a permis à des groupes terroristes d'utiliser ça. Donc, je dis que c'est très important la manière dont on lit la situation. C'est-à-dire, si nous, on se laisse avoir par cette idée de choc de civilisation, à ce moment, comme je dirais, une fille qui a un foulard dans un lycée ou un incident antisémite quelque part, ça apparaît comme une immense offensive des islamistes contre la démocratie. Mais si on voit chaque problème dans son contexte particulier et qu'on pose le problème fondamental, à mon avis, des musulmans en France qui est lié au racisme et à leur intégration ou à leur non-intégration, à ce moment, on voit les choses très différentes. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, par exemple, les actes antisémites qu'il faut évidemment dénoncer fortement et combattre fortement, mais qu'on les voit dans un autre contexte.
Alors, vous dites que le 11 septembre a déclenché, a libéré la parole islamophobe. C'est un mot qui est apparu, ça, hein, qui connaît une fortune importante. Et puis, il y a eu aussi les attentats du 11 mars 2004. Khadija, est-ce que vous avez senti, vous, cette montée de l'islamophobie depuis cette époque-là?
Ben moi, comme je dis toujours, en fait, surtout pour les filles qui portent le foulard, je dis que ce sont des filles qui sont spécialistes dans la lecture du regard. Donc, on peut facilement voir quand est-ce qu'on a un regard de mépris ou un regard d'admiration, un regard de crainte. Donc c'est clair.
L'admiration, ça arrive quand?
Ça arrive en fait.
La réponse sera plus courte.
ça arrive souvent justement quand on se présente, comme par exemple dire je suis ingénieur, un médecin. Ah bon? Donc on sent très bien une admiration, mais en même temps il y a, comment dirais-je, l'effet surprise, quoi. Comment ça se fait? Alors que je suis sûre que si j'avais pas un foulard sur la tête, la question ne se poserait pas, ou du moins la surprise ne serait pas aussi grande, quoi. Mais au niveau du regard de crainte, effectivement, après le 11 septembre, moi par exemple, pour donner justement juste une petite situation qui illustre ça, je suis abonnée dans un gymnasium, donc je me rappelle le lendemain, j'étais là et j'étais en train de faire des trucs de musculation, quoi. Alors à chaque fois quand quelqu'un il rentre, mais il regarde comme ça, j'avais l'impression c'est vraiment Miss Bin Laden, elle est en train de se former pour le djihad, quoi. Le regard aussi au niveau du métro.
Mais c'était pas vrai,
c'était pas vrai, bien sûr. Et puis aussi au niveau même du travail, je sais très bien, on était très mal, on voyait le regard. C'est comme si on était là à se dire vous voyez que votre religion c'est une religion vraiment d'intégrisme, d'intolérance et de guerre sainte. Oui. Et ce qui est tout à fait faux. Je rajouterai juste un mot tout à l'heure par rapport à la guerre de civilisation. Je pense que c'est quelque chose qui est plus souhaité que prédit, dans la mesure où on fait tout pour justement alimenter cette conception-là. Il y a qu'à voir juste un petit exemple. On dit toujours que, vous savez, ces gens-là, c'est laïcs, en fait, l'Amérique, c'est laïcs, en fait, l'Occident, c'est surtout parce que c'est le monde chrétien, en fait, qui est laïcs. Mais alors, quand on voit juste, par exemple, avec cette affaire d'otages, tout le monde arabo-musulman, y compris certains mouvements, je dirais les plus extrémistes, ils ont, par exemple, dit qu'ils sont contre cette prise d'otages, et ils rajoutaient toujours... parce qu'on ne peut pas oublier à la France sa position juste par rapport à la guerre en Irak.
Ce que vous dites aussi, Alain Grège, dans votre bouquin, c'est que on oppose ce monde de l'islam au monde judéo-chrétien. Mais entre judéo et chrétien, ça a été long aussi, pour qu'on puisse dire judéo-chrétien comme un seul mot.
Je rappelle dans le livre que l'inventeur du concept de choc des civilisations, ce n'est pas Huntington, l'universitaire américain, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Bernard Lewis, qui est un universitaire britannique qui est installé aux États-Unis, qui est très proche des néoconservateurs et qui a lancé ce concept à propos lui ne parlait pas du tout des autres civilisations, il parlait du choc des civilisations entre l'islam et le monde judéo-chrétien. Je crois que c'est important à rappeler parce que quand même ça part essentiellement du conflit israélo-palestinien. Et puis, parce que ce Bernard Lewis a produit des essais qui ont eu beaucoup d'écho en France, qui n'ont jamais été critiqués, alors qu'il y a vraiment une pensée, à mon avis, qui est à la base de cette idée de choc des civilisations. Mais comme vous dites, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une civilisation ? Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à savoir. Et c'est de penser qu'il y a des civilisations qui sont figées. Or, la définition même d'une civilisation évolue au cours du temps. Si on parle de la civilisation américaine, l'intellectuel Edward Said explique que la conception d'il y a 50 ans ou 100 ans de la civilisation américaine, c'était les cow-boys qui étaient les pionniers, les peaux rouges qui étaient des barbares, etc. Et les noirs, n'en parlons pas. 30 ans après ou 50 ans après, ça a complètement changé. Il y a d'autres voies. Donc c'est très difficile de définir des blocs fermés qui seraient une civilisation musulmane ou une civilisation chrétienne, et encore plus évidemment judéo-chrétienne. Qu'on puisse parler aujourd'hui de ça alors que on sait qu'est-ce qu'a été l'antisémitisme, non seulement l'antisémitisme de type hitlérien, mais l'antisémitisme bien avant, dès le 19e siècle, ou l'antisémitisme catholique. Je crois que c'est un concept qui n'a jamais existé, le concept de civilisation judéo-chrétienne, avant ces dernières années.
El nom de Diu me colquilleu, cinc encels atrovilleu, dos espès, tres al cabell, nostre seny i el mi aixell més. M'ha dit que m'endormieixi, que me faria plavo un hogardo de mon cos i de mon amo. Mon diu lleu me curqui, mon diu lleu me randi, randi mon amo a diu tu pixant, treni l'olei per mon tombel, la camisa per mon suari, l'usom per ma mort, la cubeta per la terra. Nostro damo d'aveniment, de la vela clariment, ma maireta me dijo que el son de rei lo crucifiariou. Uix la veritat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autonado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'ore és un? Qui la dirà un collo sun? Tres collo di vendrei sano, ten que la passiu se prezzarà? Cazzas cumesei de pecas, cumo d'erbos al prat e d'estelos al cel, tutte i vui sereu perdonà, sarve a l'uro de vostro mort, in cisoti.
Oui, Alain Grech, on assiste à un remplacement du péril rouge par le péril vert. L'empire du mal, ça n'est plus l'URSS, maintenant c'est... Alors, c'est encore plus vaste que ça, c'est pas seulement l'islam, c'est le terrorisme.
Oui.
Comme ça, voilà.
Oui. C'est très important à comprendre. Il y a un courant dans la pensée américaine néoconservatrice qui a toujours voulu avoir un ennemi, qui a toujours pensé, je pense que c'est un résultat d'une pensée religieuse, c'est-à-dire de dire la lutte entre le bien et le mal, elle ne se termine jamais.
Un livre s'intitule « Le fascisme vert », hein, carrément.
Oui, et puis l'idée aussi de la nouvelle guerre mondiale. Il y a des livres qui s'intitulent « La troisième ou la quatrième guerre mondiale », selon qu'on compte la guerre froide comme une guerre mondiale. Donc, on est dans cette image que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre, et une guerre pratiquement sans fin. Bush, hier à la convention républicaine, faisait dire que c'était une guerre dont il ne voyait pas lui-même la fin. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une guerre mondiale. Alors, je crois que pour comprendre ça, il faut remonter évidemment à la chute de l'Union soviétique, parce que c'est un concept qu'on a vu émerger à partir des années 90, l'idée que la menace verte remplaçait la menace rouge. Et elle a été vraiment élaborée au départ par un groupe de néoconservateurs américains qui ont toujours été hostiles à toute idée de détente avec l'Union soviétique, qui ont été contre Nixon, contre Reagan quand il s'est rapproché de Gorbatchev, et qui pensent, en gros, mon interprétation, c'est qu'ils pensent que le monde est un affrontement entre le bien et le mal, et que le mal doit toujours exister. Et quand le mal communiste a disparu, il a fallu le remplacer par autre chose, c'était le mal islamique. Et ça, c'est perceptible dès les années 90 chez des gens qui aujourd'hui jouent un rôle très important dans l'administration Bush fils. Donc ça, c'est une des explications. Et puis l'autre, je crois que il y a toute une série d'institutions qui tirent profit de cette guerre. Je pense notamment aux militaires, aux services de renseignement, etc., qui avaient des budgets fabuleux au moment de la guerre froide. Il n'y avait aucune raison de maintenir ces budgets s'il n'y avait plus d'ennemis, si les États-Unis étaient une superpuissance sans rival.
Ça me semble une très bonne explication. Ouais.
Ah non, réellement. Et donc, il y a eu tout un effort fait pour dire, mais non, le monde est encore plus dangereux qu'avant. Et on a vu des explications assez étranges disant, mais au moins les Soviétiques, on savait ce que c'était, on savait comment négocier avec eux, mais aujourd'hui, avec les islamistes, on ne sait pas. Ce qui est d'une certaine manière vrai, dans le sens où les islamistes ne contrôlant pratiquement aucun État,
le mot le plus utilisé, c'est nébuleuse.
Oui, on parle effectivement de nébuleuse, mais pas tellement de l'islam, des nébuleuses terroristes ou des nébuleuses islamistes. Il y a effectivement une grande diversité d'organisations. Il y a une grande diversité de sensibilités aussi. Donc ça apparaît comme plus comme un ennemi insaisissable. Donc en ce sens, c'est plus dangereux. De ce point de vue, ça rappelle assez l'idée de la menace terroriste qu'il y avait en Europe à la fin du 19e et au début du 20e, au moment des grands attentats anarchistes qui ont sévi à la fois en Europe et aux États-Unis, et où il y avait aussi l'idée comme ça de cette à la fois de nébuleuse et à la fois d'une espèce de centralisation qui ferait qu'il y ait une internationale noire ou une internationale islamiste. Alors je crois que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, encore une fois, Al-Qaïda représente une menace réelle. C'est une organisation terroriste qu'il faut combattre, mais qui relève plus des moyens policiers que de la stratégie géopolitique. Le fait de dire que ce n'est pas un ennemi au sens géostratégique ne veut pas dire que ce n'est pas une menace qui nécessite évidemment un combat policier. Mais ce n'est pas une menace stratégique. Et encore une fois, la comparer au communisme me semble absurde pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de puissance type URSS ou Chine pour représenter l'islamisme radical comme l'Union soviétique et la Chine représentaient le communisme. Et puis il y a un autre élément, c'est que l'idéologie communiste, elle était, attractive pour l'ensemble de l'humanité, notamment en Europe. Il y avait de forts partis communistes, il y avait de fortes organisations. On pouvait penser que ces organisations, un jour, prendraient le pouvoir. Je veux dire, aujourd'hui, l'islam, l'idéologie islamiste radicale, je veux dire, elle touche les musulmans, c'est-à-dire, même en Europe, c'est-à-dire, si elle touche des gens, elle touche qu'une fraction très petite des gens. Donc, ce n'est pas du tout, je crois, comparable. On ne peut pas du tout faire une comparaison entre communisme et islamisme radical.
Alors, ce que vous dites dans votre bouquin, c'est que cette peur-là a une histoire. Et vous faites l'histoire de la menace islamique, islamiste. Parce que c'est important.
Écoutez, c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui crée la confusion. Au départ, musulman et islamique, c'est pratiquement synonyme. Et islamisme, en France, au 18e et au 19e siècle, c'est synonyme d'islam. Et petit à petit, ça a été utilisé, islamisme, pour désigner les mouvements politiques qui se réclamaient de l'islam. Mais c'est vrai que la formulation est ambiguë parce qu'elle crée une espèce de confusion entre islamisme, islam et musulman. Et là, il y a vraiment une confusion intellectuelle qui est aussi due au fait qu'on ne sait pas comment définir ces mouvements. C'est qu'on n'a pas trouvé, en tous les cas, les chercheurs ne sont pas d'accord sur un concept qui permettrait de définir ces différentes dénominations.
Alors, est-ce qu'on peut évoquer quelques moments de ces mouvements islamistes?
Oui, en fait, les mouvements islamistes politiques datent de pratiquement du début du XXe siècle. Avant, il n'y a pas ce type de mouvement, et ils se sont développés surtout à partir du moment où le califat, qui était l'autorité suprême, si on peut dire, des musulmans, le califat ottoman, a été abrogé par la Nouvelle République turque. Et à ce moment, il a commencé à avoir un débat parmi les musulmans sur qu'est-ce que c'est un État islamique, qu'est-ce que c'est un État musulman, comment le définir. Et c'est de cette date-là que a commencé à se développer des courants politiques se réclamant de l'islam, dont le plus emblématique sont les Frères musulmans, qui sont nés en Égypte en 1928, créés par un instituteur qui s'appelait Hassan el-Banna, et qui essaye de réfléchir sur la manière dont, face à la modernisation, face aussi à l'invasion coloniale, on peut définir un objectif qui est un État musulman. Et ce mouvement, les Frères musulmans, il est important parce qu'il a été, je dirais, la matrice de toutes les formations de l'islamisme politique. Si on veut comparer, le communisme a pu, à certains moments, donner naissance aussi bien au Khmer Rouge, à Sentier Lumineux, au Parti communiste français, enfin, avec une grande diversité. Mais la matrice a été les Frères musulmans, qui ont eu une très grande influence en Égypte jusque dans les années 50.
Alors, on va parler de l'islam. En France, vous avez tout un chapitre sur les musulmans de France. D'abord, qui est musulman? Il n'y a pas de carte de musulman.
Non.
Il n'y a pas une carte d'adhésion, heureusement d'ailleurs.
Et donc, on ne sait pas le nombre. Je veux dire, les évaluations, je le dis, varient entre 3,5 millions et 5 millions. Des fois, on va jusqu'à 6 millions. Ce qui est amusant, c'est de voir les gens qui utilisent ces chiffres, l'utilisent des fois ils disent 6 millions pour faire peur, en disant ils sont très nombreux parmi nous, et des fois ils utilisent le chiffre bas, 3,5 millions, pour dire c'est pas si important, pourquoi les hommes politiques, les responsables politiques s'intéressent à eux. Pas plus d'ailleurs qu'on peut définir le nombre de juifs ou de chrétiens en France. Je veux dire, qu'est-ce que c'est si on définit au sens les gens qui ont été baptisés, les catholiques sont ceux qui ont été baptisés, je sais pas combien de Français ont été baptisés, enfin dans les nouvelles générations. Donc ce n'est pas possible à définir, on a des estimations, je dirais estimations qui portent plus sur les pays d'origine. C'est-à-dire globalement les gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Sénégal sont considérés à très grande majorité comme musulmans. Donc ça permet de donner une indication. Mais je crois que c'est important de comprendre deux choses. C'est l'extraordinaire diversité de ces musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont des... Nous, on parle des musulmans, on a l'impression que les musulmans de France forment une communauté soudée. Il y a des dizaines de nationalités. Il y a une communauté musulmane vietnamienne. Il y a des Marocains, il y a des Sénégalais, etc. Souvent, d'ailleurs, ils s'organisent entre eux, plus sur une base nationale que sur une base transnationale. Souvent d'ailleurs leur seule langue de communication est le français, parce que entre musulmans, je veux dire de différents pays, puisque maintenant on a les Pakistanais, etc. Il n'y a pas d'autre langue de communication que le français. Et puis il y a aussi une très grande diversité de situations, même si, et ça c'est un aspect particulier des musulmans de France, ils représentent, pas tous évidemment, une partie importante des couches ouvrières, c'est-à-dire des couches populaires. Enfin, tous les musulmans ne sont pas des ouvriers ou des couches populaires, pas plus que tous les ouvriers seraient musulmans, mais c'est vrai qu'ils vivent dans des situations particulièrement difficiles pour la majorité d'entre eux. Il y a évidemment des générations qui sont en train de s'intégrer, qui s'intègrent socialement, etc. Mais je crois que c'est quand même quelque chose de particulier de voir qu'il y a un vrai problème social dans cette population qui est particulier, d'autant que, évidemment, c'est une population qui est victime d'un racisme assez fort.
C'est ça. Alors, ça vous parlez longuement du racisme, du rejet, et ce que vous dites à plusieurs reprises dans votre bouquin, vous reprenez une façon de voir ce phénomène qui est l'ethnicisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'on remplace la lecture socio-économique de notre société par une lecture ethnico-religieuse. Mmh. Et là, on arrive à l'idée de communautarisme. Alors on en parle beaucoup, vous en parlez aussi.
Oui, tout à fait. Si on prend l'exemple de l'école, par exemple, il y a eu des études faites sur la réussite scolaire. À niveau social égal, ceux qui réussissent le mieux sont les enfants de maghrébins. Ce qui est complètement contraire à l'idée qu'on s'en fait. Et aussi à la perception qu'on en a, parce que globalement, on n'est pas à niveau social égal. C'est-à-dire l'essentiel des gens d'origine maghrébine sont issus de classes sociales défavorisées, donc connaissent beaucoup de difficultés. Et quand vous avez dans une école, du fait des politiques menées, 95% des gens qui sont, entre guillemets, des musulmans, c'est-à-dire issus du Maghreb, de l'Afrique musulmane, etc., tout le monde a tendance à dire « Ah, c'est un problème des musulmans ». Je dirais, les enseignants ont tendance à voir les difficultés réelles qu'ils ont comme un problème avec l'islam, mais je dirais, les musulmans eux-mêmes ont petit à petit tendance à se dire, on nous a relégués ici parce que nous étions musulmans, eh bien, nous allons l'être musulmans. Et donc, il y a une réaffirmation de cette identité islamique qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment une ethnicisation de la question sociale. C'est au lieu de dire, il y a un vrai problème avec ces populations, essentiellement parce que elles vivent dans des conditions où ils sont 4 ou 5 dans une même chambre, donc comment on fait les devoirs, ou bon, les parents ne peuvent pas aider, etc. On passe à de dire, ah, s'ils ne suivent pas bien à l'école, c'est parce que ils sont musulmans.
Alors, Alain Grège, dans votre bouquin, là, je rappelle le titre Islam, la République et le Monde, vous indiquez un chiffre d'un sondage avec toutes les réserves qu'il faut faire devant des chiffres de sondage, publié dans le Figaro, qui dit que 95% des musulmans adhèrent aux valeurs de la République.
Je crois que c'est un sondage qui est confirmé par beaucoup d'autres études d'opinion. Je veux dire, il y a une acceptation par les communautés musulmanes, j'ai plutôt tendance à dire les communautés que la communauté, des lois de la République, comme de l'ensemble des autres Français. Ça me semble quelque chose de normal, ça ne devrait pas nous étonner. Et je crois que cette adhésion profonde aux valeurs de la République est importante, parce que, encore une fois, on a souvent l'impression que, par essence, les musulmans seraient hostiles à notre à nos valeurs, à notre démocratie, à nos libertés. C'est pas du tout ça. Je crois qu'ils approuvent et je pense que beaucoup d'entre eux ont conscience que, en partie, c'est une chance pour eux d'être en France. Je veux dire, c'est effectivement quelque chose qui leur donne des possibilités. Mais en même temps, sans oublier évidemment qu'ils subissent aussi, pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons de racine, des discriminations tout à fait fortes.
Une chose sur laquelle vous vous étendez assez longuement, parce qu'évidemment c'est au cœur de ce sujet, de cette histoire, c'est la laïcité, évidemment. On sait depuis, et dans nos émissions, et on l'a vu et on l'a vécu, à quel point c'est le sujet qui fâche. Hein. On est très divisé sur la question. Mais alors, vous avez fait une chose tout à fait exceptionnelle et héroïque, c'est que vous vous êtes intéressé au texte, tout simplement. Mmh. Vous avez regardé un peu l'histoire de cette laïcité.
Oui, je crois que c'est très important, parce qu'on a une mémoire de la laïcité qui est une mémoire déformée. Si vous voulez, notamment par le combat scolaire. Je pense que le combat scolaire sur école publique, école privée, a été un combat très dur qui donne l'impression que finalement tout le combat de la laïcité est une espèce d'affrontement à mort entre l'Église catholique et la République. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que les fondateurs de la laïcité avaient une position beaucoup plus subtile que ça. Dans le débat en 1905 sur la loi de séparation, il y a une majorité républicaine socialiste qui va imposer cette loi de laïcité. Et il y a de séparation de l'Église et de l'État. Mais il y a deux conceptions de cette qui s'affrontent au sein du camp républicain et socialiste. Une qui est celle, on peut dire, l'héritage du petit père Combes, qui a été celui qui a chassé les congrégations, qui a été président du Conseil pendant un temps, qui est de dire, en fait, il faut casser l'Église catholique. Il faut se servir de la loi sur la laïcité pour casser cet instrument qui est un instrument dangereux. Et je rappelais tout à l'heure qu'effectivement, l'Église catholique a été hostile non seulement à la laïcité, mais à la République, et que donc pouvait apparaître comme un danger. Et puis, il y a un autre courant qui est notamment, et c'est ça qui m'a intéressé, qui est notamment appuyé par les socialistes et par Jaurès, qui est de dire, la séparation est très importante, mais elle est importante, il faut la faire de manière pacifique, et il faut la faire de manière à pouvoir passer de la question religieuse à la question sociale. Et Jaurès a une très belle formule, il dit, il faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale. Mmh. Et donc, en fait, la conception de la loi de 1905 qui va finalement triompher, c'est celle de Jaurès. C'est-à-dire, c'est celle qui dit, il faut que l'Église puisse s'organiser comme elle veut, sans ingérence de l'État, mais avec une vraie séparation. Mais l'État n'a pas à, l'État ne défend pas l'athéisme, ne défend pas une philosophie donnée. Il faut qu'il laisse l'Église s'organiser comme elle veut. Et quand la loi est adoptée, comme vous savez, l'Église refuse. On aurait pu appliquer strictement la loi, on serait revenu à chasser à prendre le contrôle de tous les édifices publics que sont les églises. La République a changé la loi pour éviter ça. C'est-à-dire cette loi de 1905, parce que l'Église l'avait refusée, on l'a changée pour permettre aux curés de continuer à faire les prières et les messes dans les églises. Et il a fallu attendre 1925 pour avoir un accord entre la République et le Vatican sur la laïcité, enfin sur l'application de la loi de 1905. Mais au moment où le Vatican accepte cette loi, l'Église catholique de France fait une déclaration pour dire que la laïcité, c'est un ennemi qu'il faut combattre. Et ça ne va pas changer jusqu'en 45. Et donc, on a je dirais, la République a été bonne fille. Elle a été, à la fois, elle s'est battue sur les principes, mais elle a aussi tenu compte de quelque chose qui, à mon avis, était important, c'était de comprendre qu'il fallait l'évolution de l'opinion. Il suffisait pas d'avoir 51% des Français contre 49, il fallait permettre aux catholiques d'évoluer. On a donné le temps au temps, on a permis aux catholiques d'évoluer, on a permis aux catholiques aujourd'hui d'intégrer les lois de la laïcité. Donc, avec les musulmans, je ne suis pas pour un compromis, il faut appliquer la loi de 1905, mais en même temps, il faut aussi permettre à des populations qui viennent de cultures et de modes de cultures différents de s'adapter. Je veux dire, on n'est pas en guerre contre eux, on veut créer les meilleures conditions pour que ces populations s'adaptent à la laïcité française.
Ça s'appelle l'intégration.
Oui, ça s'appelle l'intégration. Il faut le faire. Oui, mais si vous voulez, elle a deux aspects, cette intégration. Elle a un aspect idéologique, c'est-à-dire il faut arrêter de présenter l'islam comme un ennemi, parce que le résultat est le résultat contraire, si vous voulez, de ce à quoi on aboutit. Si vous voulez, la loi, par exemple, sur les signes religieux à l'école, elle a abouti dans ce qu'on appelle les quartiers à un renforcement des groupes les plus salafistes, extrémistes, qui disent, regardez, les Français sont contre l'islam. Et ce discours est un discours qui a été ressenti par beaucoup de gens, y compris ce que j'appelle des musulmans athées qui m'ont...
C'est un discours qui se développe, ça, Radija.
Ben, disons que c'est une réaction en fait normale à ce qu'on a vécu par rapport à cette loi-là. Moi, je tiens quand même à préciser une chose, que jusque-là, il n'y a aucun, je dirais, musulman qui refuse en fait le cadre laïque. Jusque-là, toutes les organisations, ou même enfin les musulmans, quels qu'ils soient, ils ont dit qu'ils acceptent le cadre laïque et qu'ils travaillent tant. Mais là, qu'est-ce qu'on a vécu avec cette loi-là? C'est quand même toute une... En fait, il y avait un avis du Conseil d'État qui était quand même opérationnel jusque-là, qui a permis de résoudre pas mal de litiges. Il faut quand même rappeler qu'il n'y avait que 40 cas qui posaient problème, et je crois 2 ou 3 qui étaient vraiment qui sont allés jusqu'au tribunal.
Combien de cas on pense avoir à affronter pour cette rentrée? Vous avez une idée?
J'ai pas une idée précise, mais si à si mon peu, avis, 40. Ça va être une dizaine ou une vingtaine de cas. Je suis pas sûre que ça serait autant que ça. Et on voit tout un tam-tam médiatique qui a été fait vraiment autour de cette affaire-là. Même si on prend les quarantaines de cas vraiment au début qui sont recensés d'ailleurs dans le livre d'Alain Grèche, bah, une quarantaine de cas, c'est pas vraiment, je dirais, c'est une loi vraiment pour résoudre une quarantaine de cas. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable, quoi. Et puis surtout qu'en fait, l'avis du Conseil d'État, c'était un avis quand même qui était capable de résoudre ce genre de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait toute une loi qui est taillée. Bon, on l'a présentée, c'est en fait une loi pour régler tous les signes religieux. Faut pas quand même se voiler la face. On savait très très bien que c'était le foulard qui était désigné. Donc, après, il faut pas se poser la question pourquoi cette population, ou pourquoi en fait j'aime pas le mot communauté, se sentent visées. Ben oui! Y compris certaines personnes qui ne sont pas du tout des musulmans pratiquants et tout, se sentaient visées. Parce que franchement, c'est une loi qu'on a taillée sur mesure pour cette communauté. Alors qu'avant, il y avait au moins un avis d'État, en fait, du Conseil d'État qui était capable de régler l'affaire sans pour autant rentrer dans une loi d'exception, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Oui, c'est une loi pour moi, une loi d'exception.
Radija, dès qu'on évoque la question du voile, on évoque évidemment la question des femmes, de la place des femmes dans l'islam, et j'ai cru comprendre que vous militez dans une association Islam et Féminisme. On a eu un livre qui avait frappé il y a quelques années qui s'appelait « La révolution sous le voile ».
Alors en fait là c'est un collectif en fait féministe, il y a pas que des musulmanes dedans, il y a en fait des femmes de tout horizon social, économique et puis intellectuel. Il y a des voilées, des non voilées, il y a en fait des musulmanes et des non musulmanes. Et donc l'idée c'est qu'en fait avec tout ce tam-tam médiatique autour de l'affaire de foulard, on a senti comment on est en train de manipuler en fait la cause féminine pour asseoir certaines positions plus idéologiques ou politiques. Comme par hasard la majorité de nos politiciens sont devenus des féministes qui défendent la cause féminine, alors qu'avant, le féminisme, quand même, c'était mal vu. Alors là, comme par hasard, c'est devenu quelque chose de valorisant. Tout simplement parce que c'est orienté contre des femmes musulmanes. Donc nous, l'idée, c'était de déjouer tout ça et de dire, on n'émancipe pas les gens par la répression. On émancipe les femmes en particulier en essayant, en fait, d'acquérir le maximum de droits, y compris le droit à l'éducation.
Oui, je crois que la situation des femmes est un élément très important du débat qu'on a eu, à la fois les femmes dans le monde musulman.
Qu'on a eu, non mais il n'est pas fini.
Oui, on continue. Et des femmes en France.
Il a fini son bouquin, il pense que l'histoire...
non, malheureusement, non. Sur les femmes dans le monde musulman, je crois que on assiste à des phénomènes contradictoires. C'est-à-dire, oui, il y a de plus en plus de femmes qui portent le foulard. C'est incontestable, il suffit de se promener dans n'importe quelle ville du Proche-Orient, mais aussi d'Asie musulmane, pour s'en rendre compte. Mais en même temps, et c'est ça qu'on ne voit pas, et c'est ça qui m'étonne, les éléments fondamentaux qui ont changé dans la vie des femmes. Par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les étudiants sont en majorité des femmes. Elles accèdent à l'enseignement. Elles accèdent à l'enseignement dans des proportions où elles n'ont jamais accédé avant. Et par exemple, c'est vrai en Iran. En Iran, est un des pays où l'accession à l'université est la plus importante. Et elles travaillent de plus en plus. Et elles ont de moins en moins d'enfants. C'est-à-dire, tous les éléments d'une émancipation des femmes sont en place. L'autre aspect, c'est sur la France. Je voudrais rappeler une anecdote que je donne, enfin pas une anecdote, un élément historique que je raconte dans le livre et qui me semble important pour voir que des fois, Le chemin de la libération est plus compliqué, des femmes, est plus compliqué qu'on ne pense. Le 19e siècle a été en France le siècle des congrégations féminines, c'est-à-dire les bonnes sœurs. Le nombre de bonnes sœurs, si on peut dire, a augmenté durant le siècle de manière considérable pour atteindre, je crois, plus de 100 000 à la fin du 19e siècle. Voilà quelque chose qu'on pourrait penser être quand même étonnant. Pourquoi cette augmentation dans une société qui avait l'air plutôt d'aller vers l'émancipation? Alors, c'est le résultat, en fait, du retour du machisme et avec le code Napoléon qui maintient la femme dans une situation de soumission, et elle ne peut pas travailler. Les seules possibilités de travail vont être l'enseignement et les hôpitaux à travers les congrégations féminines. Et donc, aujourd'hui, il y a eu une longue étude faite là-dessus qui montre que les congrégations féminines ont été un élément d'émancipation des femmes.
Quand même, lorsque on parle de la lapidation, quand même, et que un leader important dit oui, la lapidation, il faudrait un moratoire. Vous regardez votre télé ce soir-là, comment vous réagissez?
Écoutez, oui, vous faites allusion à Tariq Ramadan. Je crois que la position qu'il a défendue a été un peu déformée. Je vais prendre aussi un exemple. Imaginons un intellectuel américain, hostile à la peine de mort, qui dirait « Je suis hostile à la peine de mort, mais je sais que l'opinion publique américaine, dans sa grande majorité, est favorable à cette peine de mort. Je propose un moratoire. » Personne ne se révolterait, personne ne dirait « C'est scandaleux, il n'est pas contre la peine de mort, il veut une espèce de compromis. » Tariq Ramadan a dit « Je suis contre la lapidation. » La majorité des leaders religieux n'ont pas aboli la lapidation. Et ça serait peut-être intéressant de demander à M. Sarkozy, quand il rencontre les dirigeants de l'Azhar, de leur demander à eux qui ont une autorité d'abolir la lapidation. Mais aujourd'hui, même si la lapidation, il faut quand même le savoir, ne s'applique pratiquement, je veux dire, elle s'applique encore, semble-t-il, en Iran et en Arabie Saoudite, mise réellement en application, elle n'a été abolie, à ma connaissance, nulle part. Nulle part considérée comme quelque chose de contraire à l'islam. Donc, demandons que, effectivement, elle soit suspendue dans son application, qui est encore une fois limitée, et qu'il y ait un débat parmi les musulmans. Donc, c'est ça la question. Encore une fois, je veux dire, ça aurait été très facile pour Tariq Ramadan de dire « je suis contre, point ». C'est très facile parce que ça s'adresse à nous, et nous sommes convaincus, évidemment, que c'est quelque chose d'inadmissible. Mais en même temps, je veux dire, la question, c'est de savoir comment on fait avancer le monde musulman et les religieux là-dessus. Le soir où il y a eu cette émission avec Tariq Ramadan, il y a des auditeurs français musulmans qui ont appelé en Arabie Saoudite, où il y a des oulémas qui donnent des fatwas, qui donnent des conseils, qui donnent des points de vue, et qui tous ont dit la position de Tariq Ramadan est scandaleuse, il n'est pas question de moratoire, etc., etc. Alors que la presse française, elle a, je dirais, mis l'accent sur le fait « Ah, il est pour le moratoire », ça veut dire qu'il ne condamne pas la lapidation.
Donc, si on vous écoute tous les deux, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la République.
Pour moi, en fait, la question ne se pose même pas. Enfin, je sais pas, on demande pas aux chrétiens est-ce qu'il y a compatibilité ou non compatibilité entre la Bible et puis les lois de la République. On l'a demandé moins encore aux juifs ou à d'autres composantes en fait de la société. Moi, je pense qu'on vit dans une société et dans un cadre qui est là. C'est pas quelque chose qu'on est en train de négocier pour l'inventer. Il est là et qui en fait, il doit être accepté. Nous, en fait, en tant que, je dirais, citoyens musulmans en France, on ne demande pas, en fait, de changer de ce cadre-là ou de l'adapter aux musulmans. Tout ce qu'on demande, c'est juste le respecter. Et c'est ce qu'en fait, c'est ce que, je dirais, permet aux citoyens de se sentir qu'ils sont, en fait, considérés comme des citoyens à part entière. Et je reviens encore, là, quand on voit ce qui se passe, on est en train d'assommer les musulmans, de montrer patte blanche. Voilà, il y a le 11 septembre. Alors, qu'est-ce que vous pensez en tant que musulman du 11 septembre? Condamné Bin Laden. Il y a la lapidation au Niger. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la lapidation? Condamné. Enfin, je suis désolée. J'ai pas à montrer plus que n'importe quel Français qui vit en France que je condamne telle ou telle affaire.
Si la question avait été posée il y a un siècle en France, aux catholiques comme aux laïcs, est-ce que vous pensez que le catholicisme et la République sont compatibles? La majorité des deux camps aurait dit non. Donc, pour moi, je veux dire, c'est pas une espèce de question philosophique abstraite. C'est la question de savoir si concrètement dans la vie, ça pourra s'adapter. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute. Et encore une fois, je veux dire, le problème des musulmans, dans le sens le plus large du terme, à 90%, c'est des problèmes sociaux. Et c'est ça qui est important. C'est ça, si vous voulez. Moi, je comprends les mythes réellement. J'ai des amis qui étaient favorables à la loi et je comprends qu'il y ait des gens qui se battent et qui disent que c'est important, etc. Pour moi, c'est pas vraiment la question essentielle. C'est le fait que pendant un an, on a été focalisé sur des problèmes totalement secondaires. C'est-à-dire, même si on pense que le foulard est important, il faut s'interroger sur pourquoi on a discuté que de ça. Pourquoi M. Jacques Chirac me retient de la commission Stasi, qui à mon avis n'a pas été un grand succès, mais qui avait fait quand même un certain nombre d'autres propositions, pourquoi il ne retient que le foulard? Donc on a l'impression que tout ça a été manipulé pour aboutir à une loi dont on espérait qu'elle allait, parce que c'était ça la réalité, qu'elle allait faire barrage au FN. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on essaye de faire barrage au FN, petit à petit en empruntant ses idées. C'est-à-dire on a dit, ah, sur l'immigration, il pose des bonnes questions, puis maintenant sur la sécurité, il pose des bonnes questions, et sur l'islam aussi. Donc on essaye de prendre le discours du FN pour régler les problèmes politiques en France. Je pense que c'est un très mauvais choix, on n'a pas réduit le FN, et on n'a surtout pas réglé les problèmes qui étaient posés.
Un dernier mot, Khadija?
Oui, dernier mot. J'espère franchement que le livre d'Alain Grech permettra aux uns aux autres d'aborder certains sujets que jusque-là, on les a dans un tam-tam médiatique abordés de manière, je dirais, émotionnelle, voire hystérique, de pouvoir franchement les aborder d'une manière plus raisonnée. Essayer vraiment de regarder l'autre d'abord avec son côté humain, avant même de voir sa religion, son idéologie ou sa philosophie, et puis essayer de dire que si vraiment nous rêvons d'avoir un autre monde ou des autres mondes, je pense qu'il faut peut-être commencer par voir les valeurs communes qu'on partage pour avoir des combats communs.
Voilà, merci à tous les deux, merci Alain Grech, merci Khadija Marfouk. Le livre d'Alain Grech, je le rappelle encore une fois, c'est l'Islam, la République et le Monde, et c'est chez Fayard. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com, franceinter.com. Technique aujourd'hui Antoine Viossa et Patrick Leroux. Yann Chouquet est assistant, tout comme Pascal Iello. Et le répondeur, le chef du répondeur, c'est Christophe Humbert, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Il va bientôt être 18h, vous avez une chance extraordinaire, vous allez retrouver Frédéric Bonneau, Charivari.